Non mais attends, je peux enregistrer moi si tu veux. Ah c'est bon.
Donc, Sanche m'a demandé de vous parler de l'exhortation apostolique Gaudete et Exultate en date du 19 mars 2018. Alors d'abord, quelques points de traduction, d'explication. Donc, Gaudete et Exultate, en latin, veut dire « Soyez dans la joie et l'allégresse ». Tout texte du pape, en fait, est intitulé par les premiers mots du texte. Et donc là, cette exhortation commence par Gaudete et exultate, soyez dans la joie et l'allégresse, qui est donc un extrait des Béatitudes dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 12. Alors, j'ai dit que c'est une exhortation apostolique. Qu'est-ce qu'une exhortation apostolique? C'est une recommandation du pape aux fidèles. Et à la différence de l'encyclique, qui elle a une valeur juridique, qui traduit un aspect du magistère de l'Église, de la position officielle de l'Église sur tel ou tel point, l'exhortation, elle plaide plus pour l'engagement des personnes à qui elle est destinée, à savoir souvent les fidèles laïcs, mais aussi les prêtres ou les évêques, pour prendre une voie particulière. Donc l'exhortation, le verbe exhorter, c'est ça, hein, c'est le pape exhorte, donc nous donne, nous conseille, nous demande de nous engager dans telle ou telle chose. Bon là, dans la voie de la sainteté, puisque c'est une encyclique sur la sainteté. Sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, plus précisément. Et alors, un petit clin d'œil, cette exhortation apostolique a été publiée le 19 mars 2018. Alors, les textes des papes aussi, quand ils sont publiés, les dates ne sont jamais choisies au hasard. Ici, 19 mars 2018, donc 19 mars, la fête de Saint-Joseph, qui est un modèle de sainteté par excellence, de par son obéissance, la chasteté, la pauvreté de Nazareth dans laquelle il a vécu, son humilité, le fait que c'est un homme juste, un protecteur, etc., etc. Donc les dates ne sont jamais choisies au hasard, et par là il prend aussi Saint-Joseph comme exemple. Alors effectivement, il part du principe qui est écrit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, que le Seigneur veut que nous soyons des saints. Il y a beaucoup d'appels à la sainteté dans la Bible, dans la loi de Moïse elle-même, « Soyez saints comme votre Père est saint ». Dès le début, dès les premiers chapitres, dans le Lévitique, il y a cet appel à la sainteté. Ensuite, Jésus actualise et accomplit cet appel dans la béatitude, qui est, selon saint Augustin, la charte du chrétien. Donc, c'est le programme chrétien par excellence pour la sainteté. Et donc, nous sommes appelés à imiter le Christ. Et saint Paul, ensuite, développe cet appel dans les lettres. Par exemple, aux Thessaloniciens, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Dieu nous appelle à la sainteté. Voilà, etc. Je ne vais pas détailler, mais dans les Écritures, il y a tous ces appels à la sainteté. Donc, en fait, le slogan qui pourrait résumer cette exhortation, c'est la sainteté pour tous. C'est vraiment ce qu'a voulu montrer le pape François ici. En essayant toujours de l'insérer dans le contexte actuel d'aujourd'hui, avec ses risques, ses défis et ses opportunités. Dans cette exhortation, le pape prend beaucoup d'exemples de saints. Bien sûr, je ne vais pas tous les dire, mais dans chaque paragraphe, pratiquement, il y a un exemple d'un saint, soit par son comportement, soit par des citations de ce qu'a écrit tel ou tel saint. Le style est très direct, comme on lui reconnaît au pape François, il tutoie beaucoup. Et moi je dirais que c'est un texte vibrant et rassurant à la fois. Et on peut se retrouver, dans tel ou tel aspect qu'il donne, on s'y retrouve, quoi, dans un ou plusieurs aspects. Donc. Et c'est rassurant parce que c'est plein de miséricorde aussi. Voilà. Donc il y a 5 chapitres dans cette exhortation. Le premier c'est l'appel à la sainteté. Ensuite, deux ennemis subtils de la sainteté. On va voir lesquels sont. À la lumière du maître, dans lequel il développe les béatitudes. Donc là, j'irai assez rapidement sur ça. Quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel. Donc plus, on va dire, pratico-pratique. Et enfin, le combat, la vigilance et le discernement nécessaires pour ce chemin vers la sainteté. Donc le premier chapitre sur l'appel à la sainteté, bon, il parle des saints, pour commencer. Les saints qui sont là pour nous accompagner, nous encourager à aller vers ce chemin de la sainteté. Ce sont des guides dans notre vie spirituelle. Eux-mêmes ont eu peut-être une vie qui n'est pas non plus parfaite, mais ils ont été reconnus par l'Église comme des saints, parce qu'il y avait des éléments saillants de sainteté dans leur comportement, dans leur vie. Et donc, ils sont allés de l'avant et ils ont plu au Seigneur, comme écrit le pape François. Il y a ces saints-là, mais il y a aussi ce qu'il appelle les saints de la porte d'à côté. Hein. Donc, c'est les saints du quotidien, nos voisins, les personnes qu'on ne connaît pas. Alors, c'est vrai que le Seigneur a sauvé un peuple, le peuple d'Israël, il l'a choisi. Il y a nécessité de l'appartenance à ce peuple. Personne n'est sauvé seul. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il souligne, qu'on retrouvera plus loin. Et Dieu prend justement en compte, dans cet appel à la sainteté, la complexité de nos relations. Il choisit pas un saint qui est comme ça parce qu'il est seul en haut d'une montagne, il le choisit, non. Le saint aussi vit dans son monde, quoi. Donc Dieu entre dans l'histoire, dans la dynamique d'un peuple. Et on a vu dans l'Ancien Testament comment Dieu aussi à la fois accompagnait son peuple, mais aussi écoutait les récriminations de son peuple, avait des relations parfois un peu tumultueuses via les prophètes ou directement avec ce peuple-là. Donc la patience de Dieu, on la retrouve dans la patience de ces saints de la porte d'à côté. Ce sont les saints qu'on ne voit pas, et notamment les personnes les plus humbles. Il dit, par exemple, le pape François aussi, la sainteté est le visage le plus beau de l'Église. Voilà. Parmi ces personnes-là, ces saints de la porte d'à côté, ben voilà, ils donnent un visage beau de l'Église. Et il dit même qu'il y a des signes en dehors de l'Église, des signes de sainteté en dehors de l'Église. Voilà. Alors bien sûr, enfin, le magistère de l'Église dit que pour être saint, il faut, en tout cas saint reconnu par l'Église, il faut quand même appartenir à l'Église. Mais qui dit qu'au ciel, enfin, il y a aussi des personnes qui ne sont pas de l'Église catholique, qu'on retrouve dans notre religion, même chez des personnes qui n'ont aucune religion, ce qu'on appelle des semences de vérité. Donc c'est le Seigneur travaille aussi au travers de ces personnes via ces semences de vérité. Donc le Seigneur appelle, continue à appeler, chacun dans sa route, comme dit le Concile Vatican II. Le pape François appelle à ne pas nous décourager, qu'il y a des témoins utiles justement pour nous encourager, que chacun doit discerner son propre chemin. Il fait un petit clin d'œil aussi au génie féminin dans le texte, avec voilà, le génie féminin qui sait un peu peut-être discerner certaines choses. Voilà. Et il y a un paragraphe qui s'appelle dans ce chapitre Pour toi aussi. Donc ça résume un peu tout, quoi. La sainteté pour tous, qui n'est pas réservée que à ceux qui ont la possibilité de prendre la distance par rapport aux occupations ordinaires. Au contraire, la sainteté, c'est dans les occupations ordinaires, justement. On y reviendra un peu plus loin. On est appelé là où on se trouve chacun. Et il s'agit de laisser la grâce du baptême porter du fruit en nous, partout où on travaille, où on étudie, où on vit. Ne pas se décourager, encore une fois, il le dit souvent, ça. L'Église, bien sûr, c'est le lieu où on trouve l'ensemble des outils, à travers les sacrements, pour avancer vers ce chemin de la sainteté, mais aussi au travers de la lecture de la parole de Dieu, des pèlerinages, de la vie en communauté, du culte au saint, etc., etc. Donc ce sont par des petits gestes. Notre mission dans le Christ, donc en fait la sainteté, tout simplement, c'est vivre les mystères de la vie du Christ en union avec lui, dans le monde dans lequel on est. C'est vrai que ça, c'est une définition qu'on pourrait retenir de la sainteté. S'associer à la mort et à la résurrection du Christ d'une manière unique et personnelle. C'est la charité pleinement vécue, comme le Christ l'a vécue. Se laisser transformer et renouveler, même au milieu des erreurs. Et Dieu sait si dans le monde qui nous entoure, il y en a. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les activités ordinaires que réside aussi la sainteté, en tout cas pour nous. Et tout doit être intégré, incorporé dans ce chemin vers la sainteté. On dit souvent, enfin, on a tendance à croire que la vie spirituelle, c'est ce qui concerne la relation avec Dieu uniquement, et puis que le reste est à côté. Non. La vie spirituelle doit tout intégrer, tout incorporer. Le pape nous le redit ici. Bien sûr, avec l'aide de l'Esprit Saint. Et en fait, il s'agit de vivre la contemplation dans l'action. Bon, c'est un jésuite, le pape François, donc il reprend un peu des thèmes chers à Saint Ignace. Contemplatif et aussi actif. Et on peut prendre l'exemple, c'est moi qui y ai pensé, de Marthe et Marie. La contemplation et l'action. Il faut, dans ce chemin vers la sainteté, c'est les deux qui doivent être tenus ensemble. Voilà pour le premier chapitre sur l'appel à la sainteté, qui nous lance déjà sur ce thème-là de façon de plein pied. Ensuite, dans le deuxième chapitre, le pape François parle de deux ennemis subtils de la sainteté. Donc subtils, qu'on ne voit pas forcément et quelquefois ben, qu'on peut rencontrer et avec lesquels on peut pactiser. Donc il parle de falsification de la sainteté. En fait, ce sont des images qui peuvent paraître en fait des images de sainteté, mais qui n'en sont pas. On peut se laisser séduire sans s'en rendre compte, en fait. Et ces deux ennemis que je vais citer ensuite donnent lieu à un élitisme narcissique et autoritaire, là je cite ces mots, où on classifie les autres, on contrôle et finalement on perd de l'énergie. Donc on est à côté du chemin vers la sainteté. Donc ça va être deux mots barbares, mais en fait qui reprennent deux hérésies des premiers temps de l'Église catholique, deux fausses doctrines des premiers temps de l'Église catholique, qui sont le gnosticisme et le pélagianisme.
Ah, bien sûr. Voilà.
N'est-ce pas, hein? Bon, je peux pas ce chapitre 3, c'est bon, vous avez compris. Alors, il précise le gnosticisme actuel et le pélagianisme actuel, parce que le gnosticisme, c'est le second siècle, là, après Jésus-Christ, avec un certain Marcion, enfin, bon, vous chercherez, vous regarderez, mais la gnostique, Gnosis, hein, c'est la connaissance. C'est bon, je vais vous dire ce que c'est, mais voilà, c'est. Et le pélagianisme, c'est vraiment une doctrine qui une hérétique, on va dire, qui est un peu à l'opposé du gnosticisme, mais les résultats sont les mêmes. Alors, comment donc définir le gnosticisme? Donc là, je vais citer tout simplement l'exhortation. C'est une foi qui est renfermée dans le subjectivisme, où seul compte une expérience déterminée ou une série de raisonnements ou de connaissances que l'on considère comme pouvant réconforter et éclairer, et où le sujet reste fermé dans l'immanence de sa propre raison ou de ses sentiments. En gros, le gnostique, c'est le type, la femme, qui pense que pour être sain, mais il faut que j'ai lu un tas de bouquins, que je me fasse ma propre idée de la chose, que ma raison travaille à 100%, le cœur, les sentiments, tout ça. Voilà, c'est voilà, le subjectivisme, et on croit que par une relation directement, par une relation avec Dieu et par ce qu'on aura lu de lui, ben on va le connaître et on arrivera droit au ciel, en gros. Hein, pour vous dire. Donc, un esprit sans Dieu et sans chair. Donc, ils accumulent des connaissances et croient que c'est cela qui amène à la sainteté, ce que je viens de vous dire. Un esprit sans incarnation, alors que le Christ, ben, c'est un Dieu incarné qui aussi a souffert. Donc les gnostiques aussi rejettent tout ce qui est souffrance de la chair, etc., parce que c'est mauvais, c'est pas bon, quoi. C'est quelque chose de désincarné. Aucune émotion, quelque chose d'aseptisé, qui prend pourtant l'aspect d'une certaine harmonie. Les personnes qui sont dans ça ont l'impression qu'ils sont nickels, qu'ils sont parfaits et tout ça, parce qu'ils ont voilà, très bien réfléchi à la chose. Ils croient que par leurs seules explications, ils peuvent rendre parfaitement compréhensible toute la foi et tout l'évangile. Or, l'enseignement de Jésus, on le sait tous, n'est pas une logique froide et dure qui cherche à tout dominer. Au contraire, c'est quelque chose de vraiment incarné. C'est aussi une doctrine sans mystère. Or, Dieu nous dépasse indéfiniment. Les gnostiques, eux, veulent tout comprendre et tout expliquer, et arriver à tout expliquer. Or, Dieu, ben, il nous dépasse indéfiniment. Et plus on se rapproche de Dieu, plus la vérité nous est, voilà, s'éloigne de nous. Plus c'est clair et plus c'est obscur, en gros. C'est ça qui est beau aussi en même temps. Donc ce n'est pas nous qui décidons de rencontrer Dieu, d'aller vers lui par les lectures qu'on va faire, mais c'est vraiment lui qui nous rencontre. C'est lui qui nous choisit. Jésus le dit, je vous ai choisi. Et celui qui veut que tout soit clair et certain prétend dominer donc, cette transcendance de Dieu. Donc c'est très grave quand même. Le gnostique est quelqu'un qui finalement, par l'orgueil dont il fait preuve, ben, veut finalement dominer Dieu au bout du bout. Même s'il ne le dit pas, mais c'est ça, on arrive à ça. Voilà, et en plus, la raison a des limites, on le sait. On ne comprend et on n'exprime que pauvrement la vérité qu'on reçoit du Seigneur. Donc en fait, la conséquence est quoi? C'est que si on veut dominer Dieu, aussi on veut dominer les autres. Donc ce n'est pas du tout un chemin vers la sainteté que c'est le gnosticisme. Et certains gnostiques, notamment, remplacent Dieu trinitaire incarné à l'unité supérieure. Et donc, eux-mêmes nourrissent un sentiment de supériorité vis-à-vis des autres. On a plein d'exemples dans l'Église, dans nos communautés de personnes voilà, qui présentent tous ces critères-là, mais nous aussi, on peut être quelquefois amené à être un peu gnostique, je ne sais pas, notamment quand on a des personnes en face qui ne nous croient pas, qui nous posent plein de questions, et qui on veut absolument répondre à tout, puis là, on se sent, ça y est, je suis supérieur, je sais plein de choses sur Dieu, mais bon. Donc ça appelle beaucoup aussi à l'humilité, il y revient plus tard. Et il prend l'exemple de Saint Bonaventure qui a dit, donc un saint du Moyen-Âge, qui a dit que la vraie sagesse chrétienne ne doit pas être séparée de la miséricorde envers le prochain. Donc certes, c'est important de connaître Dieu, d'aller vers lui, quand on a la possibilité de lire des écrits de théologie, de philo, ou même des témoignages, etc. C'est très important, mais il ne faut pas oublier la miséricorde envers le prochain, il ne faut pas oublier l'autre, il ne faut pas oublier qu'on fait partie d'une communauté, il ne faut pas oublier nos sentiments, ni... la transcendance infinie de Dieu. Voilà pour la première falsification de sainteté. La deuxième, c'est le pélagianisme, donc c'est tout à fait autre chose, qui dit que la vie que nous menons, et uniquement la vie que nous menons, est celle qui nous mène à la sainteté. Voilà, donc. Le pouvoir que les gnostiques attribuent à l'intelligence, les pélagiens, eux, l'attribuent à la volonté, à l'effort personnel seul, c'est-à-dire qu'il n'y a que notre effort personnel et proprement humain qui va nous arriver à la sainteté. Donc, on oublie la relation, enfin, on oublie la grâce, en gros, c'est ça, on oublie la grâce, on oublie le don gratuit de Dieu, on oublie les sacrements, on oublie tout ce que les autres et tout ce que l'Église peut nous apporter, tout ce que Dieu peut nous apporter par la grâce, c'est uniquement notre propre volonté. Donc c'est une volonté sans humilité ici aussi. Hein. Faire confiance uniquement en nos propres forces et se sentir aussi supérieur aux autres finalement. Ça veut dire qu'il y a aussi un esprit de compétition derrière ça. Donc on nie en fait que les fragilités humaines ne sont pas complètement et définitivement guéries par la grâce. Donc l'absence de reconnaissance douloureuse de nos limites empêche la grâce de mieux agir en nous. Parce qu'on ne reconnaît pas en fait nos limites. Là, c'est la volonté à 100% et puis il n'y a que la volonté qui... Voilà, on ne demande pas la grâce pour nous aider. On ne demande pas l'Esprit Saint, on ne demande rien. Or, on doit percevoir notre réalité comme limitée et concrète. Donc, beaucoup, beaucoup d'humilité. On peut être tous à fond sur plein de choses, mais on oublie quelquefois de demander, de dire déjà et de reconnaître qu'on est fragile, et donc reconnaître notre humilité, et ensuite demander au Seigneur qui nous donne la grâce. Et un don de l'Esprit, ça peut être le don de discernement, le don de force, le don de conseil, enfin. Les 7 dons de l'Esprit, là, ils sont absents. Ils sont complètement absents. Et donc après, bon, je vais rapidement, mais c'est vrai qu'on oublie, c'est un enseignement de l'Église. Ça. Il y a eu des doctrines pélagiennes, et il y a eu beaucoup, beaucoup de conflits au sein de l'Église sur la volonté. Comment la volonté et la grâce. Voilà, certains qui soutenaient que c'était la volonté qui était donc première, les pélagiens, et d'autres qui... Et donc qui oubliaient la grâce. Donc il y a eu des combats entre théologiens. Donc, ce que nous dit le pape François, c'est que c'est seulement à partir du don de Dieu, librement accueilli et humblement reçu, accueillir librement et humblement reçu, que nous pouvons coopérer par nos efforts à nous laisser transformer vers la sainteté. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la grâce et puis j'attends que la grâce vienne et je ne fais aucun effort. Ce n'est pas non plus je ne fais que des efforts et puis la grâce, je l'oublie. Non, c'est les deux. Il faut concilier les deux. Et donc, il parle des nouveaux pélagiens qui sont les adorateurs de la volonté humaine et de ses propres capacités, avec une autosatisfaction égocentrique et élitiste dépourvue de l'amour vrai. Il frappe très fort. Obsession pour la loi, fascination de pouvoir montrer les conquêtes sociales et politiques, et la vaine gloire liée aux affaires pratiques. Donc là, on n'est que dans le pratico-pratique, on oublie complètement l'aspect contemplatif ici. Et donc le risque, c'est que l'Église devient la propriété d'un petit nombre de personnes qui sont à fond et qui veulent tout gouverner par leur propre volonté. Et on soumet la vie de la grâce à quelques structures humaines. Voilà pour les deux risques auxquels on peut être confronté, le gnosticisme d'une part et le pélagianisme d'autre part. Donc là, je trouve qu'il frappe assez fort, et ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend des doctrines hérétiques des premiers temps de l'Église, et puis du Moyen-Âge un petit peu aussi. Et en fait, voilà, c'est pas encore terminé, même si l'Église a tranché dans les textes et que le combat n'est pas terminé. Et on peut tous aussi être un peu aveuglés par ces différentes falsifications. Le troisième chapitre, il intitule « À la lumière du Maître ». Là, il part des béatitudes. Voilà. Et le pape nous dit que la sainteté vise en fait à mettre en œuvre chacun à sa manière ce que Jésus déclare dans les béatitudes. « Heureux », en fait, on pourrait remplacer par « saint ». Voilà. C'est la même... Ça pourrait être synonyme. Donc, c'était déjà un texte qui allait à contre-courant. Et aujourd'hui, encore plus peut-être, ben, les béatitudes, on est amené à les vivre dans le monde actuel à contre-courant, alors que le monde nous attire vers d'autres directions. Mais le pape nous dit que nous pouvons vivre les béatitudes que si l'Esprit Saint nous envahit avec toute sa puissance. Donc, n'oublions pas l'Esprit Saint. On a quelquefois tendance à oublier que l'Esprit Saint aussi, on ne l'invoque pas toujours. Et pourtant, c'est lui qui nous aide à cheminer vers la sainteté. Donc ensuite, bon, je ne vais pas revenir sur les béatitudes. Il détaille chaque béatitude en l'appliquant à aujourd'hui, en fait. À aujourd'hui et à notre agir chrétien dans le monde. Voilà. Bon. Je prends juste un exemple. Hein, sur... Voilà. Heureux les miséricordieux, car ils obtiennent miséricorde. Je fais le lien comme ça avec... un thème cher au pape François. Donc la miséricorde a deux aspects. Elle consiste à donner et à aider à servir les autres, d'une part, et aussi à pardonner, à comprendre. Il y a les deux. Il y a aider et pardonner. Donc donner et pardonner, c'est essayer de reproduire dans nos vies un petit reflet de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. La dernière phrase qui est intéressante. La mesure que nous utilisons pour comprendre et pour pardonner à nos proches nous sera appliquée pour nous pardonner. Dans le chemin vers la sainteté. La mesure que nous appliquons pour donner nous sera appliquée au ciel pour nous récompenser. Donc ça, moi, j'ai eu ça et je l'ai surligné, je me suis mis... Parce que c'est... Et nous n'avons pas intérêt à l'oublier, il dit après le pape François. Donc on a tendance quelquefois à l'oublier, mais souvenons-nous aussi des moments où on a... Ben voilà, on a... Et puis rendons grâce à Dieu pour ces moments où on a donné, pardonné, sans que ce soit de la vaine gloire pour nous, mais remercions le Seigneur, souvenons-nous de ça dans nos prières, l'adoration, etc. C'est des choses que le Seigneur retient aussi, des moments que le Seigneur retient pour nous pardonner ensuite. Voilà. Bon, voilà pour un exemple que je voulais donner de béatitude. Après, si ça vous intéresse, vous lirez. C'est assez long. Et d'ailleurs, le grand critère...
Il est pas très long.
Le grand critère... Mais il est très dense,
oui,
c'est ça.
Très dense.
Parce que chaque phrase est importante. Et le grand critère, justement, c'est... heureux les miséricordieux. C'est vraiment... c'est pas pour rien aussi qu'il ait rédigé cette encyclique, cette exhortation, pardon, dans cet élan qu'il a voulu donner à la fois à la miséricorde et aux béatitudes pour le dernier JMJ. C'était ça le thème. Mm-hmm. Voilà. Ce que je peux dire sur ce chapitre 3. Quelque chose d'intéressant à la fin de ce chapitre 3, c'est le paragraphe 100. C'est facile à retenir. Je cite le pape François. Je regrette que parfois. Les idéologies nous conduisent à deux erreurs nuisibles. D'une part, celle des chrétiens qui séparent les exigences de l'évangile de leur relation personnelle avec le Seigneur, de l'union intérieure avec lui, de la grâce. Ainsi, le christianisme devient une espèce d'ONG, où on vient donc au secours des plus faibles, etc. Or, saint François d'Assise, saint Vincent de Paul, saint Thérèse de Calcutta étaient des grands mystiques. Enfin, c'était des personnes qui ne séparaient pas leur action, qu'on pourrait dire humanitaire, des gros guillemets, de la prière. Et les sœurs qui étaient autour de Sainte Thérèse de Calcutta qui disaient, mais ma sœur ou ma mère, on n'a pas le temps, il y a tellement... Mais alors, il faut prier deux fois plus. Voilà. Et d'autre part, quelle est l'autre erreur? C'est les chrétiens qui vivent en suspectant l'engagement social des autres. Donc, c'est tout à fait l'inverse. Qui considèrent comme quelque chose de superficiel, de mondain, de laïcisant, d'immanentiste, de communiste, de populiste.
Voilà.
Ah oui, oui. Ou bien il relativise, là il faut le conjuguer, comme s'il y avait d'autres choses plus importantes, ou bien comme si ça les intéressait seulement, ou si seulement une certaine éthique les intéressait, on va choisir qu'une partie, puis le reste on va laisser aux autres. Donc là aussi, encore une fois, il faut tenir les deux. C'est-à-dire que l'action, la charité, les œuvres de charité qu'on peut produire ne doivent pas être déconnectées de la prière, et inversement. Voilà. La foi sans les œuvres, enfin c'est Saint-Jacques, la lettre de Saint-Jacques, qui dit que la foi sans les œuvres, ben c'est rien du tout. Quoi. Et on peut le mettre dans l'autre sens aussi. Voilà. Ah oui, et puis sur la prière aussi, nous oublions parfois que le critère pour évaluer notre vie est avant tout ce que nous avons pour les autres. Bon, voilà. La prière a de la valeur que si elle alimente un don de soi quotidien par amour. Aussi. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit, mais c'est le lien entre la prière et les œuvres de charité. Voilà. Quatrième chapitre, avant-dernier chapitre, c'est bientôt fini. Oui. C'est quelques caractéristiques de la sainteté dans le monde actuel. Donc il y a des moyens de sanctification qu'on connaît déjà, les méthodes de prière, les sacrements, etc. etc. Mais quelles sont ces caractéristiques aujourd'hui? C'est les grandes manifestations de l'amour envers Dieu et le prochain. Donc il en cite plusieurs. L'endurance, la patience et la douceur, c'est des caractéristiques de la sainteté. Voilà comment on doit être, voilà des comportements qui nous invitent à épouser. Donc endurance, patience et douceur. Et c'est cette force intérieure, en fait, dans laquelle on puise cette endurance, cette patience, cette douceur, qui est l'œuvre de la grâce, donc il ne faut pas oublier non plus la grâce, la prière, qui nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale. Parce que la grâce apaise la vanité et rend possible la douceur du cœur. Donc là, on est dans l'humilité qui s'enracine dans le cœur, à travers les humiliations que quelquefois on doit être capable de surmonter. C'est pas facile d'être patient, doux et endurant face à des personnes qui ne nous considèrent pas comme des gens qui nous supportent pas, quoi, tout simplement. Donc il met en parallèle avec l'humiliation du Fils et l'humilité du Père dans la longue marche d'Israël. Ensuite, il parle de joie et de sens de l'humour. Donc là, il y a plein de saints et c'est assez intéressant. comme Saint Thomas More ou Saint Philippe Neri ou même Saint Jean Bosco, qui voilà, qui sont vraiment des apôtres de la joie et qui ont un sens de l'humour très 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 important. Donc il nous demande d'avoir un esprit positif et rempli d'espérance. Quelque chose de bien qui me dit, qui nous dit, c'est que la mauvaise humeur n'est pas un signe de sainteté. Alors, il écrit tel quel. Bon là il prend plein d'exemples. La joie qui est très présente dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament.
Voilà. Ça ne doit pas nous décourager. Hein.
Non, voilà. Mais ça m'a fait... Voilà.
Et, on a été très, très la soirée. Hein.
Et la joie véritable se vit en communion. Donc, voilà. Elle se partage, elle se distribue. Donc il ne faut pas qu'on la garde pour nous non plus. Ensuite, une autre caractéristique, c'est l'audace et la ferveur. Alors là, il fait le lien avec l'évangélisation, notre esprit missionnaire qu'on doit avoir, et ne pas avoir peur de sortir de nos sécurités, de notre confort. La compassion et la miséricorde de Jésus, dans les évangiles, incite à se lever, à aller de l'avant et à aller en mission. Souvent, quand il guérit les malades ou quand il pardonne les péchés, Jésus dit ensuite, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, marche. Donc, en fait, cette miséricorde de Dieu, cette compassion nous invite, de Jésus, de Dieu, ouais, nous invite à cette ferveur-là. Ne pas nous habituer à marcher dans des périmètres sûrs. Voilà. Aller aux périphéries. Dieu lui-même s'est fait périphérie. Voilà ce que dit le pape François. Dieu lui-même s'est fait pauvre. Alors ensuite, il dit voilà quels sont deux cadres particuliers dans lesquels on peut vivre cette endurance, cette patience, cette douceur, cette joie, sens de l'humour, audace et ferveur. C'est en communauté. Alors bien sûr, les communautés religieuses, bon, elles vivent ça de façon... Elles sont incitées à vivre ça de façon plus rapprochée encore. Mais nous-mêmes, en fait, il faut qu'on soit attentif aux détails, aux petits détails de chaque jour. Et là, il a une liste de détails, c'est très intéressant, de Jésus. Le petit détail du vin était en train de manquer lors d'une fête. Le petit détail d'une brebis qui manquait. Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes. Le petit détail d'avoir de l'huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le fiancé. Le petit détail de demander à ses disciples de vérifier combien de pain ils avaient. Et enfin, le petit détail d'avoir allumé un feu de braise avec du poisson posé dessus tandis qu'il entendait les disciples allumer. Donc c'est les détails auxquels Jésus a été attentif et auxquels nous aussi, dans nos communautés, on doit être attentif. Et bien sûr, deuxième cadre, c'est en prière constante. La sainteté, c'est l'ouverture habituelle à la transcendance. C'est-à-dire que dans ce chemin de la sainteté, il faut qu'on s'habitue, même si on n'est pas habitué, à nous ouvrir à la grandeur et au mystère de Dieu. Donc, avec ce besoin que nous avons de communiquer avec Dieu. Sainte Thérèse d'Avila parlait d'un commerce intime d'amitié avec Dieu. Cette amitié qu'on doit avoir avec Dieu. Voilà. Ce commerce, cet échange avec Dieu, en fait. On parle à Dieu, Dieu nous parle. Donc, ne pas avoir peur d'être dans la solitude aussi. Les deux. Là aussi, il faut tenir à la fois solitude, vie de prière, et aussi vie avec les autres. Voilà. Ne pas être trop dans la solitude et trop être dans le spiritualisme. Ne pas être non plus dans l'engagement qui serait trop engageant et dans lequel on oublierait la transcendance. Voilà. C'est très souvent pas binaire, mais c'est très souvent deux choses qu'il faut tenir ensemble dans ce texte, toujours. Et enfin, dernier chapitre, c'est sur le combat, la vigilance et le discernement. Donc là, on retrouve les thèmes chers aussi à Saint Ignace de Loyola. Donc là, il parle du diable, il commence par parler du diable en disant que le diable existe. N'allez pas croire que le diable n'existe pas, c'est ce qu'il nous dit. Il faut d'abord admettre son existence pour comprendre la force destructrice du mal. Il n'y a qu'à écouter Jésus qui nous dit, quand il nous apprend la prière de notre Père, délivre-nous du mal. Donc c'est que le mal existe. Voilà, nous devons rester éveillés et confiants. Les deux, éveillés et confiants, là aussi. Donc c'est assez rassurant. Le chemin de sainteté, de toute façon, c'est une lutte. On a plusieurs armes, que sont la foi, la prière, la méditation de la parole, la messe, l'adoration, la réconciliation, etc. etc. Je cite le pape François, le triomphe chrétien est toujours une croix qui est étendard de victoire. Donc le triomphe est une croix. Le triomphe est la croix, si on pourrait dire. Et dans cette vigilance, on doit faire attention à la corruption spirituelle. Et ça, c'est quand on croit qu'on ne commet pas de fautes graves. En gros, on est aveuglé. On est conforté dans des péchés qu'on peut commettre en se disant non, mais ça, c'est pas grave, je suis habitué, donc maintenant, voilà, ça passe. Corruption spirituelle. Et enfin, le discernement, qui nous appelle à examiner ce qu'il y a en nous, par ce qu'on appelle l'émotion de l'esprit, nos consolations, nos désolations. Il y a des fois où je suis très heureux, il y a des fois où ça me procure de la désolation, donc. Je dois plutôt aller vers les choix ou les moments dans lequel je suis heureux. Et le discernement nous appelle aussi à examiner ce qu'il y a en dehors de nous, ce qu'il appelle les signes des temps. On dit tout ça, c'est un signe, là c'est un signe, là c'est un signe, mais oui, les signes des temps nous incitent, nous amènent à discerner, c'est-à-dire savoir si une chose vient de l'Esprit Saint ou de l'Esprit du monde, voire de l'Esprit du diable. Et il faut demander, le pape nous exhorte à prier et à demander le don du discernement. Pas seulement pour des moments extraordinaires, pour des grandes décisions qu'on doit prendre, mais même sur des petites décisions. Et je vous ai dit, en citant le pape François au début, que la sainteté, c'est dans aussi les choses ordinaires, les scènes d'abord d'à côté, l'humilité, c'est dans des petites choses. Alors bien sûr, le discernement spirituel n'exclut pas les apports des autres connaissances, mais les transcende. Le discernement, à la fois, inclut et dépasse la raison et la prudence. Donc la raison, c'est voilà, il y a ce que nous dit la raison, il y a ce que nous dit dans lequel on doit être prudent, mais le discernement, voilà, c'est ce qui englobe et dépasse tout ça. Donc, le pape nous invite à être dans le silence de la prière et aussi être disponible à écouter le Seigneur et les autres. Bien sûr, ça brise nos sécurités, mais ça mène à une vie meilleure, à ce chemin vers la sainteté. Et enfin, pour terminer, le pape nous dit que la logique du bonheur n'est pas de ce monde, c'est la logique du don et de la croix. Et le dernier chapitre, le dernier paragraphe, comme souvent dans les textes du pape, il s'adresse à la Vierge Marie. Donc je vous le lis en entier. Je voudrais que la Vierge Marie couronne ses réflexions, car elle a vécu comme personne les béatitudes de Jésus. Elle est celle qui tressaillait de joie en la présence de Dieu, celle qui gardait tout dans son cœur et qui s'est laissée traverser par le glaive. Elle est la sainte parmi les saints, la plus bénie, celle qui nous montre le chemin de la sainteté et qui nous accompagne. Elle n'accepte pas que nous restions à terre, et parfois elle nous porte dans ses bras sans nous juger. Parler avec elle nous console, nous libère et nous sanctifie. La mère n'a pas besoin de beaucoup de paroles. Elle n'a pas besoin que nous fassions trop d'efforts pour lui expliquer ce qui nous arrive. Il suffit de chuchoter encore et encore « Je vous salue, Marie. » Amen.
Super. Merci d'avoir aussi été rapide. Désolé pour cet exercice.
Non, mais c'est pas de problème.
Est-ce qu'on a quand même des questions?
Après, il faut les envoyer au pape, les questions.
C'est moins bouillant que l'évêque, quand même. Hein. Lui, il était plus bouillant la semaine dernière.
Alors là, on va couper l'enregistrement.
Oui.
Il est...
La mère, on a déjà ça. Oui, la semaine dernière.